Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Les liaisons dangereuses, de Pierre Chauderlot de Laclos, lettre 131. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. À la bonne heure, vicomte, et je suis plus contente de vous cette fois-ci que l'autre. Mais à présent, causons de bonne amitié, et j'espère vous convaincre que pour vous comme pour moi, l'arrangement que vous paraissez désirer serait une véritable folie. N'avez-vous pas encore remarqué que le plaisir, qui est bien en effet l'unique mobile de la réunion des deux sexes, ne suffit pourtant pas pour former une liaison entre eux, et que s'il est précédé du désir qui rapproche, il n'est pas moins suivi du dégoût qui repousse? C'est une loi de la nature que l'amour seul peut changer. Et de l'amour, en a-t-on quand on veut? Il en faut pourtant toujours. Et cela serait vraiment fort embarrassant si on ne s'était pas aperçu qu'heureusement, il suffisait qu'il en existât d'un côté. La difficulté est devenue par là de moitié moindre. Et même sans qu'il y ait eu beaucoup à perdre, en effet, l'un jouit du bonheur d'aimer, l'autre de celui de plaire, un peu moins vif à la vérité, mais auquel se joint le plaisir de tromper. Ce qui fait équilibre, et tout s'arrange. Mais dites-moi, vicomte, qui de nous deux se chargera de tromper l'autre? Vous savez l'histoire de ces deux fripons qui se reconnurent en jouant. Nous ne nous ferons rien, se dirent-ils. Payons les cartes par moitié, et ils quittèrent la partie. Suivons, croyez-moi, ce prudent exemple, et ne perdons pas ensemble un temps que nous pouvons si bien employer ailleurs. Pour vous prouver qu'ici votre intérêt me décide autant que le mien, et que je n'agis ni par humeur, ni par caprice, je ne vous refuse pas le prix convenu entre nous. Je sens à merveille que pour une seule soirée, nous nous suffirons de reste. Et je ne doute même pas que nous ne sachions assez l'embellir pour ne l'avoir finir qu'à regret. Mais n'oublions pas que ce regret est nécessaire au bonheur. Et quelque douce que soit notre illusion, n'allons pas croire qu'elle puisse être durable. Vous voyez que je m'exécute à mon tour, et cela sans que vous vous soyez encore mis en règle avec moi. Car enfin, je devais avoir la première lettre de la céleste prude, et pourtant, soit que vous y teniez encore, soit que vous ayez oublié les conditions d'un marché qui vous intéresse peut-être moins que vous ne voulez me le faire croire, je n'ai rien reçu, absolument rien. Cependant, ou je me trompe, ou la tendre dévote doit beaucoup écrire, car que ferait-elle quand elle est seule? Elle n'a sûrement pas le bon esprit de se distraire. J'aurais donc, si je voulais, quelques petits reproches à vous faire. Mais je les passe sous silence, en compensation d'un peu d'humeur que j'ai eue peut-être dans ma dernière lettre. À présent, vicomte, il ne me reste plus qu'à vous faire une demande, et elle est encore autant pour vous que pour moi. C'est de différer un moment que je désire peut-être autant que vous, mais dont il me semble que l'époque doit être retardée jusqu'à mon retour à la ville. D'une part, nous n'aurions pas ici la liberté nécessaire, et de l'autre, j'y aurais quelques risques à courir, car il ne faudrait qu'un peu de jalousie pour me rattacher de plus belle ce triste belle roche qui pourtant ne tient plus qu'à un fil. Il en est déjà à se battre les flancs pour m'aimer. C'est au point qu'à présent, je mets autant de malice que de prudence dans les caresses dont je le surcharge. Mais en même temps, vous voyez bien que ce ne serait pas là un sacrifice à vous faire. Une infidélité réciproque rendra le charme bien plus piquant. Savez-vous que je regrette quelquefois que nous en soyons réduits à ces ressources? Dans le temps où nous nous aimions, car je crois que c'était de l'amour, j'étais heureuse. Et vous, vicomte? Mais pourquoi s'occuper encore d'un bonheur qui ne peut revenir? Non, quoi que vous en disiez, c'est un retour impossible. D'abord, j'exigerai des sacrifices que sûrement vous ne pourriez ou ne voudriez pas me faire. Et qu'il se peut bien que je ne mérite pas. Et puis, comment vous fixer? Oh, non, non, je ne veux seulement pas m'occuper de cette idée, et malgré le plaisir que je trouve en ce moment à vous écrire, j'aime mieux vous quitter brusquement. Adieu, vicomte. Lettre 132. La présidente de Tourvel à Madame de Rosemonde. Pénétrée, madame, de vos bontés pour moi, je m'y livrais tout entière, si je ne m'étais retenue, en quelque sorte par la crainte de les profaner en les acceptant. Pourquoi faut-il, quand je les vois si précieuses, que je sente en même temps que je n'en suis plus digne ? Ah, j'oserais du moins vous en témoigner ma reconnaissance. J'admirerais surtout cette indulgence de la vertu qui ne connaît nos faiblesses que pour y compatir et dont le charme puissant conserve sur les cœurs un empire si doux et si fort, même à côté du charme de l'amour. Mais puis-je mériter encore une amitié qui ne suffit plus à mon bonheur ? Je dis de même de vos conseils, j'en sens le prix et ne puis les suivre. Et comment ne croirais-je pas à un bonheur parfait quand je l'éprouve en ce moment ? Oui, si les hommes sont tels que vous le dites, il faut les fuir, ils sont haïssables. Mais qu'alors Valmont est loin de leur ressembler. S'il a comme eux cette violence de passion, que vous nommez emportement, combien n'est-elle pas surpassée en lui par l'excès de sa délicatesse ? Oh mon ami, vous me parlez de partager mes peines, jouissez donc de mon bonheur. Je le dois à l'amour, et de combien encore l'objet en augmente le prix. Vous aimez votre neveu, dites-vous, peut-être avec faiblesse ? Ah, si vous le connaissiez comme moi, je l'aime avec idolâtrie, et bien moins encore qu'il ne le mérite. Il a pu sans doute être entraîné dans quelques erreurs, il en convient lui-même. Mais qui jamais connut comme lui le véritable amour ? Que puis-je vous dire de plus ? Il le ressent tel qu'il l'inspire. Vous allez croire que c'est là une de ces idées chimériques dont l'amour ne manque jamais d'abuser notre imagination. Mais dans ce cas, pourquoi serait-il devenu plus tendre, plus empressé ? Depuis qu'il n'a plus rien à obtenir ? Je l'avouerai, je lui trouvais auparavant un air de réflexion, de réserve, qu'il abandonnait rarement et qui souvent me ramenait, malgré moi, aux fausses et cruelles impressions qu'on m'avait données de lui. Mais depuis qu'il peut se livrer sans contrainte au mouvement de son cœur, il semble deviner tous les désirs du mien. Qui sait si nous n'étions pas nés l'un pour l'autre ? Si ce bonheur ne m'était pas réservé d'être nécessaire au sien ? Ah, si c'est une illusion ! Que je meure donc avant qu'elle finisse. Mais non, je veux vivre pour le chérir, pour l'adorer. Pourquoi cesserait-il de m'aimer ? Quelle autre femme rendrait-il plus heureuse que moi ? Et je le sens par moi-même, ce bonheur qu'on fait naître est le plus fort lien, le seul qui attache véritablement. Oui, c'est ce sentiment délicieux qui ennoblit l'amour, qui le purifie en quelque sorte, et le rend vraiment digne d'une âme tendre et généreuse, telle que celle de Valmont. Adieu, ma chère, ma respectable, mon indulgente amie. Je voudrais en vain vous écrire plus longtemps. Voici l'heure où il a promis de venir, et toute autre idée m'abandonne. Pardon, mais vous voulez mon bonheur, et il est si grand dans ce moment que je suffis à peine à le sentir.
Got the teeth.
Lettre 133. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Quels sont donc, ma belle amie, ces sacrifices que vous jugez que je ne ferai pas, et dont pourtant le prix serait de vous plaire ? Faites-les-moi connaître seulement, et si je balance à vous les offrir, je vous permets d'en refuser l'hommage. Et comment me jugez-vous depuis quelque temps, si, même dans votre indulgence, vous doutez de mes sentiments ou de mon énergie ? Des sacrifices que je ne voudrais ou ne pourrais pas faire. Ainsi, vous me croyez amoureux, subjugué, et le prix que j'ai mis au succès, vous me soupçonnez de l'attacher à la personne ? Ah, grâce au ciel, je n'en suis pas encore réduit là, et je m'offre à vous le prouver. Oui, je vous le prouverai, quand même ce devrait être envers Madame de Tourvel. Assurément, après cela, il ne doit pas vous rester de doute. J'ai pu, je crois, sans me compromettre, donner quelque temps à une femme qui a au moins le mérite d'être d'un genre qu'on rencontre rarement. Peut-être aussi la saison morte dans laquelle est venue cette aventure m'a fait m'y livrer davantage. Et encore à présent, qu'à peine le grand courant commence à reprendre, il n'est pas étonnant qu'elle m'occupe presque en entier. Mais songez donc qu'il n'y a guère que 8 jours que je jouis du fruit de 3 mois de soins. Je me suis si souvent arrêté davantage à ce qui valait bien moins et ne m'avait pas tant coûté. Et jamais vous n'en avez rien conclu contre moi. Et puis, voulez-vous savoir la véritable cause de l'empressement que j'y mets ? La voici. Cette femme est naturellement timide. Dans les premiers temps, elle doutait sans cesse de son bonheur, et ce doute suffisait pour le troubler, en sorte que je commence à peine à pouvoir remarquer jusqu'où va ma puissance en ce genre. C'est une chose que j'étais pourtant curieux de savoir, et l'occasion ne s'en trouve pas si facilement qu'on le croit. D'abord, pour beaucoup de femmes, le plaisir est toujours le plaisir et n'est jamais que cela. Et auprès de celles-là, de quelques titres qu'on nous décore, nous ne sommes jamais que des facteurs, de simples commissionnaires dont l'activité fait tout le mérite, et parmi lesquels celui qui fait le plus est toujours celui qui fait le mieux. Dans une autre classe, peut-être la plus nombreuse aujourd'hui, la célébrité de l'amant, le plaisir de l'avoir enlevé à une rivale, la crainte de se le voir enlever à son tour, occupent les femmes presque tout entières. Nous entrons bien, plus ou moins, pour quelque chose dans l'espèce de bonheur dont elles jouissent. Mais il tient plus aux circonstances qu'à la personne. Il leur vient par nous et non de nous. Il fallait donc trouver, pour mon observation, une femme délicate et sensible, qui fit son unique affaire de l'amour et qui, dans l'amour même, ne vit que son amant, dont l'émotion, loin de suivre la route ordinaire, partie toujours du cœur pour arriver au sens. Que j'ai vu par exemple, et dont je ne parle pas du premier jour, sortir du plaisir tout éploré et le moment d'après retrouver la volupté dans un mot qui répondait à son âme. Enfin, il fallait qu'elle réunît encore cette candeur naturelle, devenue insurmontable par l'habitude de s'y livrer, et qui ne lui permet de dissimuler aucun des sentiments de son cœur. Or, vous en conviendrez, de telles femmes sont rares. Et je puis croire que, sans celle-ci, je n'en aurais peut-être jamais rencontré. Il ne serait donc pas étonnant qu'elle me fixât plus longtemps qu'une autre. Et si le travail que je veux faire sur elle exige que je la rende heureuse, parfaitement heureuse, pourquoi m'y refuserais-je, surtout quand cela me sert, au lieu de me contrarier ? Mais de ce que l'esprit est occupé, s'ensuit-il que le cœur soit esclave ? Non, sans doute. Aussi, le prix que je ne me défends pas de mettre à cette aventure ne m'empêchera pas d'en courir d'autres, ou même de la sacrifier à de plus agréables. Je suis tellement libre que je n'ai seulement pas négligé la petite Volange, à laquelle pourtant je tiens si peu. Sa mère la ramène à la ville dans 3 jours, et moi, depuis hier, j'ai su assurer mes communications. Quelque argent au portier, quelques fleurettes à sa femme en ont fait l'affaire. Concevez-vous que Danceny n'ait pas su trouver ce moyen si simple ? Et puis, qu'on dise que l'amour rend ingénieux. Il abrutit, au contraire, ceux qu'il domine. Et je ne saurais pas m'en défendre. Soyez tranquille. Déjà, je vais, sous peu de jours, affaiblir en la partageant l'impression peut-être trop vive que j'ai éprouvée. Et si un simple partage ne suffit pas, je les multiplierai. Je n'en serai pas moins prêt à remettre la jeune pensionnaire à son discret amant dès que vous le jugerez à propos. Il me semble que vous n'avez plus de raison pour l'en empêcher. Et moi, je consens à rendre ce service signalé au pauvre Danceny. C'est, en vérité, le moins que je lui doive pour tous ceux qu'il m'a rendus. Il est actuellement dans la grande inquiétude de savoir s'il sera reçu chez Madame de Volanges. Je le calme le plus que je peux, en l'assurant que, de façon ou d'autre, je ferai son bonheur au premier jour. Et en attendant, je continue à me charger de la correspondance qu'il veut reprendre à l'arrivée de sa Cécile. J'ai déjà 6 lettres de lui, et j'en aurai bien encore 1 ou 2 avant le rejour. Il faut que ce garçon-là soit bien désœuvré. Mais laissons ce couple enfantin, et revenons à nous, que je puisse m'occuper uniquement de l'espoir si doux que m'a donné votre lettre. Oui, sans doute, vous me fixerez, et je ne vous pardonnerai pas d'en douter. Ai-je donc jamais cessé d'être constant pour vous? Nos liens ont été dénoués, et non pas rompus. Notre prétendue rupture ne fut qu'une erreur de notre imagination. Nos sentiments, nos intérêts n'en sont pas moins restés unis. Semblable au voyageur qui revient détrompé, je reconnaîtrai comme lui que j'avais laissé le bonheur pour courir après l'espérance. Et je dirai comme d'Harcourt, « Plus je vis d'étrangers, plus j'aimais ma patrie. » Du Bellois, tragédie du siège de Calais. Ne combattez donc plus l'idée ou plutôt le sentiment qui vous ramène à moi. Et après avoir essayé de tous les plaisirs dans nos courses différentes, jouissons du bonheur de sentir qu'aucun d'eux n'est comparable à celui que nous avions éprouvé et que nous retrouverons plus délicieux encore. Adieu, ma charmante amie. Je consens à attendre votre retour. Mais pressez-le donc et n'oubliez pas combien je le désire. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I danced myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Strange to dance so late. Is it strange to dance so late? Strange to dance so soon. I dance myself into the tune. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? Myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tune, and then again once more. I dance myself out of the womb. I dance myself out of the womb. Strange to dance so soon. I dance myself out of the womb. Oh, 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 oh. Lettre 134. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. En vérité, vicomte, vous êtes bien comme les enfants, devant qui il ne faut rien dire et à qui on ne peut rien montrer qu'il ne veuille s'en emparer aussitôt. Une simple idée qui me vient, à laquelle même je vous avertis que je ne veux pas m'arrêter, parce que je vous en parle, vous en abusez pour y ramener mon attention, pour m'y fixer quand je cherche à m'en distraire, et me faire en quelque sorte partager malgré moi vos désirs étourdis. Est-il donc généreux à vous de me laisser supporter seul tout le fardeau de la prudence? Je vous le redis, et me le répète plus souvent encore, l'arrangement que vous me proposez est réellement impossible. Quand vous y mettriez toute la générosité que vous me montrez en ce moment, croyez-vous que je n'ai pas aussi ma délicatesse et que je veuille accepter des sacrifices qui nuiraient à votre bonheur? Or, est-il vrai, vicomte, que vous vous faites illusion sur le sentiment qui vous attache à Madame de Tourvel? C'est de l'amour, ou il n'en existe à jamais. Vous le niez de bien sans façon, mais vous le prouvez de mille. Qu'est-ce, par exemple, que ce subterfuge dont vous vous servez vis-à-vis de vous-même, car je vous crois sincère avec moi, qui vous fait rapporter à l'envie d'observer le désir que vous ne pouvez ni cacher ni combattre de garder cette femme? Ne dirait-on pas que jamais vous n'en avez rendu une autre heureuse, parfaitement heureuse? Ah, si vous en doutez, vous avez bien peu de mémoire. Mais non, ce n'est pas cela. Tout simplement, votre cœur abuse votre esprit et le fait se payer de mauvaises raisons. Mais moi, qui ai un grand intérêt à ne pas m'y tromper, je ne suis pas si facile à contenter. C'est ainsi qu'en remarquant votre politesse, qui vous a fait supprimer soigneusement tous les mots que vous vous êtes imaginé m'avoir déplu, j'ai vu cependant que, peut-être sans vous en apercevoir, vous n'en conserviez pas moins les mêmes idées. En effet, ce n'est plus l'adorable, la céleste Madame de Tourvel, mais c'est une femme étonnante, une femme délicate et sensible, et cela à l'exclusion de toutes les autres. Une femme rare, enfin, et telle qu'on n'en rencontrerait pas une seconde. Il en est de même de ce charme inconnu qui n'est pas le plus fort. Eh bien, soit. Mais puisque vous ne l'aviez jamais trouvé jusque-là, il est bien à croire que vous ne le trouveriez pas davantage à l'avenir, et la perte que vous feriez n'en serait pas moins irréparable. Ou ce sont là, vicomte, des symptômes assurés d'amour, ou il faut renoncer à en trouver aucun. Soyez assurés que pour cette fois, je vous parle sans humeur. Je me suis promis de n'en plus prendre. J'ai bien trop reconnu qu'elle pouvait devenir un piège dangereux. Croyez-moi, ne soyons qu'amis et restons-en là. Sachez-moi gré seulement de mon courage à me défendre. Oui, de mon courage, car il en faut quelquefois, même pour ne pas prendre un parti qu'on sent être mauvais. Ce n'est donc plus que pour vous ramener à mon avis par persuasion que je vais répondre à la demande que vous me faites sur les sacrifices que j'exigerai et que vous ne pourriez pas faire. Je me sers à dessein de ce mot « exiger », parce que je suis sûre que, dans un moment, vous m'allez en effet trouver trop exigeante. Mais tant mieux. Loin de me fâcher de vos refus, je vous en remercierai. Tenez, ce n'est pas avec vous que je veux dissimuler. J'en ai peut-être besoin. J'exigerai donc, voyez la cruauté, que cette rare, cette étonnante Madame de Tourvel ne fût plus pour vous qu'une femme ordinaire, une femme telle qu'elle est seulement. Car il ne faut pas s'y tromper. Ce charme qu'on croit trouver dans les autres, c'est en nous qu'il existe. Et c'est l'amour seul qui embellit tant l'objet aimé. Ce que je vous demande là, tout impossible que cela soit, vous feriez peut-être bien l'effort de me le promettre, de me le jurer même. Mais, je l'avoue, je n'en croirais pas de vains discours. Je ne pourrais être persuadée que par l'ensemble de votre conduite. Ce n'est pas tout encore. Je serais capricieuse. Ce sacrifice de la petite Cécile que vous m'offrez de si bonne grâce, je ne m'en soucierai pas du tout. Je vous demanderai au contraire de continuer ce pénible service jusqu'à nouvel ordre de ma part, soit que j'aimasse à abuser ainsi de mon empire, soit que, plus indulgente ou plus juste, il me suffit de disposer de vos sentiments sans vouloir contrarier vos plaisirs. Quoi qu'il en soit, je voudrais être obéie, et mes ordres seraient bien rigoureux. Il est vrai qu'alors je me croirais obligée de vous remercier. Que sait-on? Peut-être même de vous récompenser. Sûrement, par exemple, j'abrégerais une absence qui me deviendrait insupportable. Je vous reverrais enfin, vicomte, et je vous reverrais comment? Mais vous vous souvenez que ceci n'est plus qu'une conversation, un simple récit d'un projet impossible, et je ne veux pas l'oublier toute seule. Savez-vous que mon procès m'inquiète un peu? J'ai voulu enfin connaître au juste quels étaient mes moyens. Mes avocats me citent bien quelques lois, et surtout beaucoup d'autorités, comme ils les appellent. Mais je n'y vois pas autant de raison et de justice. J'en suis presque à regretter d'avoir refusé l'accommodement. Cependant, je me rassure en songeant que le procureur est adroit, l'avocat éloquent et la plaideuse jolie. Si ces trois moyens devaient ne plus valoir, il faudrait changer tout le train des affaires, et que deviendrait le respect pour les anciens usages? Ce procès est actuellement la seule chose qui me retienne ici. Celui de Belleroche est fini. Hors de cour, dépens compensés. Il en est à regretter le bal de ce soir. C'est bien le regret d'un désœuvré. Je lui rendrai sa liberté entière, à mon retour à la ville. Je lui fais ce douloureux sacrifice, et je m'en console par la générosité qu'il y trouve. Adieu, vicomte. Écrivez-moi souvent. Le détail de vos plaisirs me dédommagera au moins en partie des ennuis que j'éprouve.
Nice day to